Le vendredi 22 novembre dernier, une grande figure du football régional disparaissait, Daniel Leclerc, qui nous quittait à l'âge de 70 ans. Un nom qui n'est pas inconnu pour tous ceux qui suivent de près ou de loin le football, joueur emblématique de Valenciennes et de Lens dans les années 1970, entraîneur du Racing Club de Lens en 1998, avec qui il remporta le championnat de France et la Coupe de la Ligue également en 1999. C'est également l'artisan de la remontée de Valenciennes en Ligue 2 en 2005. Tous les amateurs de football garderont le nom de Daniel Leclerc en tête. Radio Plus lui rend hommage ce soir et vous propose de retrouver une rediffusion de son interview du 6 mars 2017 dans l'émission Sport Plus. Il était interviewé par Henri au sujet de sa biographie intitulée « Daniel Leclerc, une histoire de druide ».
Retrouvez chaque lundi de 18h à 20h toute l'équipe de la rédaction de Sport Plus avec Henri et Willy.
Tous les résultats sportifs régionaux, nationaux et internationaux dans toutes les disciplines, réactions, interviews et des invités chaque semaine. Sport Plus, votre émission 100% sport sur Radio Plus avec Henri et Willy.
Radio Plus, on y est bien.
On va démarrer tout de suite, donc je vais présenter quand même mes invités. J'ai M. Lépiné des éditions Lumière de Lille.
Oui, bonsoir.
J'ai M. Morneau qui a coécrit le livre avec M. Daniel Leclerc,
bonsoir. Bonsoir.
Et M. Daniel Leclerc, bonsoir.
Bonsoir.
Alors M. Lépiné, on va présenter les Lumières de Lille en tant qu'éditeur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Bien, c'est une maison d'édition que j'ai créée en 2005. Avec pour objectif de raconter ma région, parce que j'y suis fort attaché. Aujourd'hui, la maison d'édition a à peu près une cinquantaine de livres, dont presque une dizaine sur le football en particulier. J'ai couvert les trois grands clubs, Lille, Lens et Valenciennes. J'ai aussi un livre qui s'appelle « L'histoire des derbies ». Qui raconte les 108 derbies qui sont déroulés entre Lille et Lens depuis 1945. À chaque fois, la matière football est inépuisable. Il y aura toujours des choses à raconter, puisque dans le foot, on retrouve en fait la vie courante des personnages qui ont des vies différentes et avec toujours ce retour, le Nord-Pas-de-Calais est une grande région de football, donc j'ai pas beaucoup de craintes sur ce genre de sujet. Il y aura encore énormément de choses à raconter.
Bien, merci Zépine. Monsieur Morneau, alors pour faire ce livre, question-réponse, alors quelles sont été vos connaissances sur Daniel Leclerc pour réaliser celui-ci?
Ah oui, bah pour connaître, pour faire un ouvrage sur Daniel, déjà il faut connaître le football déjà, pour commencer. Ensuite, on peut pas parler avec Daniel pendant 20 ou 30 heures si on connaît pas à minima l'histoire de ces deux clubs qui sont donc le RC Lens et l'USVA, en sachant que l'histoire du RC Lens, elle commence pas en 1998 et l'histoire de Valenciennes, elle commence pas en 2005. Après, bon, il y a eu évidemment des recherches dans la presse spécialisée historique sur toute cette période complémentaire pour vraiment faire quelque chose de complet quoi.
Et par rapport à Marseille, comment ça s'est passé pour les questions?
C'est de la culture générale footballistique, hein. C'est pas trop compliqué aujourd'hui de retrouver la trace de tout ce qui s'est passé sur Marseille. Hein. Voilà. Puis il y a encore la presse, hein. Donc, c'est pas trop compliqué. On est en 2017, et voilà, on a quand même des possibilités pour retrouver des statistiques, des matchs. Voilà. Il y a pas eu trop de complications.
Alors, monsieur Leclerc, le livre s'appelle Une histoire de druide. Quelle est la définition du druide pour vous?
La définition du druide, c'est quelqu'un qui donne une potion à tous les gens, certainement, qui en ont besoin. Alors, c'est vrai que cette appellation, au départ, m'a surpris. Mais en fin de compte, je m'y suis fait, tout simplement. Et puis, en réfléchissant bien, peut-être que la potion que j'ai pu insuffler et donner aux joueurs n'était pas liquide, mais certainement c'était certainement le fruit de la passion, tout simplement.
Alors, moi, l'homme à chaussures noires, ou le grand blanc à chaussures noires, mais surtout, c'était ce titre-là que j'ai aimé, la définition, le grand blanc à chaussures noires. Pour moi, c'était ce qui vous ressemblait le plus. Quel est votre avis sur ce sujet-là?
Oui, mais c'est certainement rendu à l'époque de Pierre Richard, qui avait fait un film sur un autre sujet. Et puis, ça allait bien de m'identifier à ce personnage avec bien sûr une chaussure noire puisque j'étais essentiellement gaucher et puis que cette chaussure elle m'allait bien aux pieds. Alors si on peut rajouter une anecdote, vous savez, à chaque fois que je croise Eric Sicora, bien sûr il m'appelle le druide, mais il m'appelle aussi Pénarol, une marque de chaussures que j'utilisais quand j'étais joueur, et à chaque fois il m'appelle Pénarol
par rapport à la marque.
Voilà.
D'accord, oui, parce qu'elle est très bien à votre pied, et à votre pied gauche en particulier.
Voilà.
Ouais, voilà. Alors, avez-vous senti le bon moment pour faire ce livre avec M. Morneau? Comment ça s'est passé?
Bon, le bon moment, oui, mais c'est surtout Thierry qui a eu la bonne idée de venir taper à la porte, parce que je n'ai pas de sonnette à la maison, donc il est venu taper à la porte. Et puis de me convaincre, encore une fois, d'être plus convaincant que les autres, mais avec des mots simples, avec une volonté de mettre en avant un petit peu tout ce qui a été fait, comme il le dit si bien Thierry, à Valenciennes, à Marseille et à Lens. Donc, après avoir refusé plusieurs fois sur certains journalistes qui voulaient aussi écrire ce livre, bah oui, là, j'ai donné mon accord avec beaucoup de plaisir. On a passé beaucoup d'heures ensemble, on a eu bonne relation avec Frédéric, et puis tout s'est fait normalement, peut-être à mon avis un peu vite, mais tout ce qui est écrit dans le livre et tout ce qui est répertorié est la stricte vérité.
Alors, Monsieur Morneau, sur la forme du bouquin, constatez-vous que la formule de l'interview est atypique?
C'est atypique. Bon, on aurait pu faire une bio plus classique, mais c'est toujours mieux quand c'est Daniel qui parle que quand c'est quelqu'un qui parle sur Daniel, hein, déjà, à mon sens. Voilà. Après, c'était la forme qui m'a paru la plus spontanée, la plus naturelle, respecter au mieux les propos de Daniel. Voilà. En ce sens, voilà. J'ai souhaité que ce soit vraiment un livre qui soit au plus près du personnage. Et voilà, c'est la formule qui me convenait le mieux. Voilà, on reste dans la spontanéité. On peut presque dire que c'est un bouquin bio. C'est une bio, mais qui est bio. Voilà.
Mais c'est autre chose que les bouquins qu'on lit comme ça, quoi. Je veux dire, c'est question-réponse. C'est quand même une découverte pour moi. Oui. C'était quand même une découverte.
Oui, il y avait quelques antécédents, mais pas beaucoup. Hein. Michel Platini avait fait un entretien similaire avec Gérard Hernault il y a un an à peu près. Mais c'est pas une forme qui est très prisée.
Non, moi je trouve ça très bien parce que c'était le moment justement de me ressasser tous les souvenirs, et Thierry a eu souvent le mérite de réveiller en moi quelques souvenirs que j'avais presque oubliés, quoi. Donc ça, c'est, et puis j'aime bien quand on pose des questions plutôt que d'aller de commencer à m'exprimer sans véritablement une idée précurseur, quoi.
Alors, on revient vers vous, Monsieur Leclerc. Vous avez déjà évoqué votre enfance dans le quartier Poirayé, à Trissin-Léger. Quand on le lit, on comprend que votre milieu d'origine n'était pas particulièrement aisé avec Usineur, mais on a néanmoins l'impression que c'était une enfance heureuse. Est-ce que c'était le cas, ouais?
Ben oui, c'était une enfance heureuse. Je vais pas dire que c'était mieux avant, mais c'était déjà bien, tout simplement, parce qu'on est dans un milieu modeste, on est très très humble, et puis on est éduqué de la meilleure des façons. Moi, je répète toujours que je remercie mes parents de m'avoir donné cette éducation qui m'a servi et qui me sert encore aujourd'hui. Donc oui, on était heureux. Moi, j'avais la chance, je dis bien la chance, d'avoir un père qui était supporter simplement de l'USVA à l'époque et qui m'emmenait voir les matchs. Et puis ça suffisait à mon bonheur parce que ça me permettait de voir des professionnels évoluer, de me rendre compte de ce qui se faisait le mieux à cette époque-là dans le championnat français. Et puis derrière, se remettre en situation avec les copains, tout simplement.
Alors, vos premiers pas dans le football de rue, comment ça s'est passé sur la place du Poirier à Tristan-Léger? Est-ce que vous n'étiez pas un peu déjà une star à cette époque?
Non, je pense pas. Peut-être qu'il y avait des copains qui préféraient jouer avec moi plutôt que contre moi. Mais sur la place du Poirier, bah, c'était la place qui... Okay, avec cet escalier qui descendait dans l'usine Nord, et puis avec tous ces ouvriers qui faisaient leur poste, et puis nous régulièrement après chaque jour d'école, ben on avait juste 2-3 minutes pour descendre sur la place du Poirier, se retrouver, faire les équipes et jouer jusqu'au bout de la nuit, quoi.
Avant d'évoquer la prochaine question, un mot, quelqu'un qui vous a marqué, qui vous marque encore, M. Déméné?
Bah oui, tout d'abord, parce que c'est vraiment l'histoire, quoi, et qui revient. C'est M. Déméné qui m'a découvert, parce qu'on est allé, on a eu la bonne idée avec des copains d'aller à l'école de foot à Valenciennes. À cette époque-là, bah, vous pouviez vous déplacer à Valenciennes, ou dans un autre club, je suppose, et puis aller... participer à des entraînements au niveau de l'école de foot. Lui m'a repéré tout de suite. Il y a eu un tournoi de Noël, et puis derrière j'ai continué. Il s'est appliqué à me faire travailler énormément contre un mur, et puis derrière, ben oui, j'ai fait le chemin, et puis en finalité j'ai retrouvé Monsieur Déméné pour passer un cap dans ma carrière d'entraîneur, puisque je l'ai remplacé pour m'occuper des professionnels à Valenciennes à un moment donné avec Jean-Louis Borloo. Et puis ça a toujours été un plaisir. Je le remercie très sincèrement de tout ce qu'il a fait avec ses fils, Gabi, Léon. Et puis je remercie aussi Monsieur Gabi Robert qui m'a fait débuter en professionnel mon premier match.
On se souvient toujours de son premier entraîneur.
On se souvient de tous ses entraîneurs.
Oui, oui, mais enfin, après, en particulier...
Après dans un classement, c'est sûr que M. Déméné, M. Sauvinski ont une place particulière dans mon cœur.
Voilà. Donc, vous avez répondu à la question suivante par rapport à l'intégration à l'école du football de Valenciennes. On en a parlé avec M. Déméné. Alors, M. Morneau, cette équipe de Valenciennes, dans les années 60, au moment de Daniel, postule Daniel, où en est-elle?
Alors, c'était la grande équipe de Valenciennes. Hein. En 1965, Valenciennes aurait dû être champion normalement, hein, s'il n'y avait pas eu la blessure conjuguée de Paul Sauvage et de Joseph Bonnel. L'année d'après, ils sont encore sur le podium, hein, et l'année suivante, donc on est en 67, donc c'est un an avant que Daniel intègre l'équipe. Il y a un match France-Roumanie au Parc, et dans l'équipe de France, il y a trois joueurs valenciennois. Hein. Il y a Provelli, il y a Piumi et il y a Bonnel. Hein. Donc l'équipe dans laquelle Daniel débute, c'est une grande équipe. On peut dire que c'est une grande équipe.
Alors vos premiers pas dans le football professionnel à 18 ans, M. Leclerc, en avril 68 contre Rouen, n'était pas forcément un bon souvenir?
Oh, si, c'est forcément un bon souvenir. C'est pas parce qu'il y a des fêtes que c'est un mauvais souvenir. D'abord c'est le premier match, et puis après avec... cette particularité, c'est que, comme d'habitude, j'ai joué au foot avec mes copains toute la journée. C'était un samedi, donc il n'y avait pas école, on a pu jouer un peu plus longtemps. Et puis le soir, en passant par la collation qui avait lieu au buffet de la gare à Valenciennes, où j'étais très très surpris de voir des professionnels, parce que je n'en étais pas un, se restaurer avec du café, du thé... Et jouer aux cartes, un jeu que je connaissais pas, le tarot, même si je jouais pas trop aux cartes, j'en avais pas le temps. C'était surtout le ballon qui m'intéressait. Non, ça a été complètement nouveau pour moi. J'ai découvert Ningesser. J'ai plutôt pensé à regarder ces tribunes complètement pleines et mes copains, mes collègues de terrain, plutôt qu'à penser à jouer pour moi. Et je pense que ça reste bien bien ancré dans mes souvenirs, parce que j'ai, à un moment donné, j'ai eu une action où j'aurais certainement dû marquer, mais que je n'ai pas marqué parce que j'avais certainement la tête ailleurs. Pas sur le terrain, mais autour du terrain. J'ai fini mon match, je suis rentré chez moi à pied, parce que mon père avait aussi cette particularité, c'est que il me laissait aller au rendez-vous à pied, il me laissait revenir à pied, quelle que soit l'heure, et puis... Et puis c'était bien comme ça.
Alors tout le monde se souvient de Daniel Leclerc lors de la finale contre Saint-Etienne en 1975, mais peu de gens savent qu'en 1970, à 20 ans, il a failli disputer une première finale de coupe avec Béa, qui aurait été aussi contre Saint-Etienne.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était l'année du bataillon de Joinville. Et puis, j'étais au bataillon, et puis on rentrait avec Jean-Pierre Kuskoviak, souvent le mercredi. On arrivait au bataillon le lundi, on repartait le mercredi, parce que cette saison-là, il y avait le championnat, bien sûr, puis il y a eu cette Coupe de France, qui nous a pris énormément, et puis où il a fallu répéter les matchs, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs d'appui, parce qu'il y avait des matchs d'aller-retour. Il y avait des matchs nuls, donc il fallait jouer un troisième match d'appui. On en a joué un à 3.
Il n'y avait pas de penalty à l'époque, il y avait 3, oui.
On en a joué un à 3, on en a joué un à Gerland. Et puis, il y a eu cette demi-finale contre Nantes.
C'est ça.
Où on avait fait un gros match, mais c'était vraiment exclusivement des jeunes à cette époque-là. Et on n'était pas passé à côté, mais on était frustrés du résultat, parce qu'on méritait certainement mieux. Et au match retour, on avait certainement la possibilité aussi de renverser la vapeur, mais on ne l'a pas fait. Et puis, on était certainement sur ces deux matchs-là supérieurs à Nantes. En tout cas, je pense qu'on aurait certainement fait mieux que Nantes en finale contre Saint-Etienne.
Bien sûr. Alors, quels sont les noms des personnes, entraîneurs, éducateurs, joueurs, dirigeants, qui ont marqué dans cette période valencienoise, et pourquoi, en quelles circonstances?
Les Valenciennois qui m'ont marqué.
Oui, les dirigeants, les joueurs, entraîneurs.
Les joueurs, vous savez, c'est comme le dit Thierry, hein, moi j'allais voir la belle époque valenciennoise, ça se résumait dans le championnat de France à une lutte entre Bordeaux, Nantes, Saint-Etienne, toujours à peu près les mêmes. Et puis Valenciennes qui pratiquait vraiment un jeu spectaculaire et très attrayant. Alors ben, c'est vrai, comme il l'a dit... Thierry, des garçons comme Paul Sauvage, Serge Masnaghetti, Joseph Bonnel, qui m'a fait entraînement à Nagesser et avec qui j'ai joué à Marseille plus tard. Des garçons comme Magira, Provelli, Piomi, avec qui j'ai débuté, Bolek Kosic, Jean-Pierre Guinaud, et puis après c'est toute cette génération de jeunes qui est arrivée derrière. Donc c'était la meilleure école, quoi. Et puis les dirigeants, ben, vous savez, à un moment donné, à Valenciennes, vous vous entraînez à l'école de foot, vous avez toujours les mêmes entraîneurs qui vous entraînent régulièrement, Monsieur Desmenets. Et puis par contre, quand vous êtes jeune, vous partez le dimanche un petit peu dans l'inconnu, parce qu'il n'y a pas d'entraîneur, c'est juste un dirigeant qui vous accompagne. Et ce qui est plus vrai aujourd'hui, parce que le football a évolué, il y a de plus en plus d'éducateurs, donc les garçons sont bien entourés. Mais ça ne nous a pas empêché, encore une fois, par rapport à cette situation, à donner à chaque fois le meilleur de nous-mêmes et de répondre présent, quel que soit le temps, parce qu'on est obligé d'y faire référence. Et un horaire un peu plus compliqué aujourd'hui pour les jeunes.
Tout à fait. Alors on arrive à cette période marseillaise où dans le livre il y a une anecdote hallucinante. C'est vrai, c'est hallucinant quand je l'ai lu, quand je l'ai vu, et là, notamment par rapport à la photo. C'est la façon dont vous avez intégré l'Olympique de Marseille.
Oui, c'est bien. C'est d'abord une grande histoire d'amitié avec Alain Macagnot, qui faisait toutes les sélections avec moi, c'est-à-dire à partir des juniors, amateurs, militaires, espoirs. Et puis un jour, en sortant d'une période de sélection, il me demande d'aller passer 15 jours de vacances chez lui. Mis à part que quand on arrive chez lui, bah lui, il est convoqué parce qu'il y a toujours les séances d'entraînement et qu'il y a une coupe d'été qui se déroule à Marseille. Et puis, comme l'entraîneur, M. Zatelli, me demande si je veux bien m'entraîner avec eux, bah je m'entraîne avec eux. Comme il pense déceler des capacités chez moi, bah il me demande si je veux jouer contre l'AEK Stockholm. Bon, moi, je suis tout jeune, donc je me demande... ce qu'il en est, si j'ai le droit, si j'ai pas le droit, c'est pas... J'ai certainement le droit de jouer au foot. Après, je connais pas les règlements, donc... effectivement, j'ai joué sous une fausse licence. Mais je crois que là, maintenant, le temps est dépassé, non? Je peux pas.
Ouais, c'est prescrit, peut-être, oui.
Je pense.
faut espérer. Ouais, hein.
J'ai joué sous une fausse licence, mais... parce que j'ai remplacé Roland Merchel, qui était très très blond, qui venait de Strasbourg, et puis voilà. Et c'est bien, parce que sur la photo qu'on a retrouvée, il y a vraiment le nom de Roland Merchel.
Oui, tout à fait, avec la photo de Daniel Leclerc. sur la scène de gauche. Oh bah. C'est quand même une anecdote hallucinante. Ouais, franchement, c'est... quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, franchement, maintenant, ça, ça... on ne pourrait plus le faire, ça, c'est certain.
Ouais, à partir de là, tout s'est accéléré, quoi. J'ai eu le bonheur de faire un gros match, et puis M. Zatelli m'a demandé si ça m'intéressait de venir à Marseille. Moi, j'ai dit oui, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait, quoi, tout simplement. Et puis, il y a eu une forme d'échange avec Joseph, qui était l'avant-centre de Marseille à l'époque, plus une somme d'argent redonnée à Valenciennes. Et puis, ça s'est fait tout simplement. C'était le début du contrat à temps. Voilà. Il n'y avait pas de contrat à temps avant. Les joueurs étaient liés jusqu'à 35 ans. Il fallait l'accord du club. Moi, j'étais un des premiers à signer un contrat à temps. J'ai signé 6 ans à Marseille.
Alors, Monsieur Morneau, où en est l'OM au moment du transfert de Daniel?
Ben, c'était une bonne équipe. Ils avaient gagné la Coupe de France en 69. Et là, ils terminent deuxième à 11 points de Saint-Etienne, qui était quadruple champion de France. Donc là, on est en 70. Donc je pense qu'à l'époque, c'était le président Marcel Leclerc. Ils font pas un gros recrutement cette année-là. Hein. Ils prennent un arrière-gauche qui vient de Paris-Neuilly, qui s'appelle Kula. Et ils prennent Daniel qui vient de Valenciennes. Et malgré tout... c'était un recrutement simple mais gagnant parce qu'ils se retrouvent champion de France à la fin de la saison 71, la première saison de Daniel.
Donc c'est quand même un transfert qui a marqué quand même la première saison. Alors Monsieur Leclerc, vous êtes parvenu à libérer tout de suite, à vous libérer dans cette grande équipe. Vous n'avez pas le trouvomètre à zéro quand même en arrivant là, d'épaisement, le Nord et ses corons, le Marseille et sa canebière.
Non, c'est pas le Nord et ses corons, c'est pas Marseille et sa canebière, c'est Marseille et ses supporters surtout. C'est une passion aussi, elle est différente, mais entre Valenciennes et Lens, elle est complètement différente. Entre Lens et Lille, c'est complètement différent. Entre Valenciennes et Lille, c'est aussi différent. Mais à Marseille, c'est passion et c'est violence aussi, quoi. Donc à un moment donné, j'ai beaucoup d'anecdotes par rapport à ça. Mais moi, encore une fois, ma priorité, c'est le foot. Donc bien sûr qu'il y a beaucoup plus de pression à Marseille qu'ailleurs, encore aujourd'hui, hein, ça se vérifie. Mais même si on est passé par des moments un peu plus difficiles, il y avait quand même des joueurs d'un talent exceptionnel, d'une expérience exceptionnelle. Et donc, avec tout ça, moi, j'ai énormément appris à Marseille, quoi. J'ai l'ambition, l'exigence. C'est un club où on n'a pas le droit d'être, comme l'a dit Thierry, moi, je suis arrivé, on a été champion. Derrière, il faut être champion tous les ans, quoi. C'est comme ça, on n'accepte pas la deuxième place. Et surtout qu'à l'époque, le rival, c'est pas le PSG, parce qu'il n'existe pas. Mais c'est Saint-Etienne, quoi.
Saint-Etienne.
C'est des matchs contre Saint-Etienne uniques, quoi. C'est vraiment, il faut les avoir vécus, parce que à Geoffroy Guichard, moi j'ai vu des matchs contre Saint-Etienne au Vélodrome avec Saïf Keita, avec Bernard Bosquet, Georges Cornu, ces anciens Stéphanois, mais c'était exceptionnel. Aujourd'hui, ça pourrait plus, parce que les spectateurs étaient sur le Vélodrome, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas... Mais ça se jouait quand même.
Alors pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître, champion de France à 21 ans.
Ouais, c'est... comme je dis, mais c'est un coup de maître pour moi, et ça m'a servi énormément, mais c'est surtout le coup de maître de ces artistes. Hein. Vous savez, c'est quand même relativement facile. J'ai toujours... pour principe de et comme référence de dire à Marseille comme ça devrait se faire aujourd'hui, on joue avec les points forts. Nous, les points forts, c'était Magnusson, c'était Skobler. Voilà. Donc on pouvait éventuellement mettre le bleu de chauffe pendant une heure et quart, en sachant que à chaque moment ils allaient faire la différence. Donc aujourd'hui, ouais, on parle de peut-être du record que Cavani va battre, Josip Skoblar, 44 buts. Bon, ben, il y avait bien sûr Josip dans notre camp, Magnusson, mais de l'autre côté, à Saint-Etienne, il y avait Salif Keita aussi.
Ah, bien sûr, tout à fait. Il y a beaucoup de joueurs qui vous ont marqué donc, pendant ces années dans l'équipe de l'OM. Vous en avez cité quelques-uns. Bon, il y en a encore d'autres. Et pourquoi ?
Parce que j'ai appris, encore une fois, par rapport à l'exigence. Et puis, dans la continuité de ce que j'ai appris à Valenciennes, avec des garçons comme Gilbert Grèce, hein, qui était très, très exigeant, très intransigeant dans le jeu, dans la manière d'évoluer, dans la maîtrise du ballon. Bien sûr, de Joseph Bonnel, parce que ça a toujours été mon idole, ça. Et puis après, de garçons comme Salif Keita, Marius Trésor, et en finalité, avec Gersino et puis Paulo César. C'est vraiment des moments fantastiques, quoi. Il y a qu'à l'OM qu'on peut vivre ça, et à cette époque-là, qu'on pouvait vivre ça à cette époque-là avec des talents vraiment incroyables, quoi.
C'était l'arrivée des joueurs étrangers, hein, voilà.
Oui,
voilà,
oui,
c'est
oui,
ça.
Oui. Bah, à Marseille, on a eu le bonheur de... Moi, j'ai eu le bonheur de côtoyer Paulo César. C'est toujours un plaisir quand il y a des joueurs de ce talent qui arrivent. J'aime bien les côtoyer, j'aime bien m'associer à eux.
Donc, un Brésilien, Paulo César, hein. Et José Escobar, un Yougoslave, parce que... Ouais. Serbe ou Yougoslave ?
Croate. Ouais, je crois qu'il est croate.
Croate, ouais, juste croate. Alors la Coupe d'Europe, c'était une autre aventure, une grande aventure.
Ah oui, c'est une grande aventure, mais aussi là, c'est pareil, c'est une grande découverte. Il y a eu des matchs dans un premier temps suite à la victoire en Coupe l'année précédente contre Spartak Trnava. Moi, je me souviens de matchs aller où on s'est fait cracher dessus en Tchécoslovaquie. Au match retour où les supporters ont cassé les barrières et ont failli envahir le terrain. Et puis DJ Kouikou, qui était un garçon extraordinaire dans la vie, mais un peu difficile à gérer sur le terrain pendant les matchs. Bon, qui s'était fait remarquer et qui s'est fait expulser en sortant les deux bras en l'air avec les deux chaussures, une chaussure dans chaque main, applaudi partout. Tout le stade, et puis bien sûr après la Ligue des Champions, quoi, contre Johan Cruyff, l'Ajax, je parle de cela. Oui, il y a eu des joueurs aussi qui sont passés par Valenciennes, avec, je sais pas si c'était Katowice ou avec Vrazi, avec Lubanski, tout ça. Et puis la Juventus de Turin, la grande équipe de Dino Zoff, tout ça. Donc c'est vraiment des souvenirs exceptionnels, c'est des matchs exceptionnel.
Alors, au milieu de cette période marseillaise, vous faites une pige de 6 mois à Angoulême.
Oui.
Pourquoi et comment ?
Oui. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, la veille d'un match, justement contre Angoulême, en répétition, y a Gilbert Kress qui me tacle, et puis je me fais une grosse, grosse entorse. Donc, je ne peux pas jouer. Donc, on arrive presque à la trêve, et puis j'ai pas remis les pieds sur le terrain. Je continue à boiter, à ne pas pouvoir m'entraîner. Et puis, Angoulême a certainement des vues sur moi parce que il voit que je ne joue plus à ce moment-là. Et puis, Marcel Leclerc est très convaincant. Il propose à Angoulême d'avoir un prêt. Et puis, je suis prêté à Angoulême jusqu'à la fin de saison. Mis à part que j'arrive à Angoulême toujours en boitant, que je fais un premier match en boitant. Et que les garçons ont la bonne idée de m'orienter vers quelqu'un qui pratiquait l'acupuncture. C'était vraiment très très nouveau à cette époque-là. Quand même, ça remontait dans les années 72. Et avec deux séances d'acupuncture, ce médecin m'a guéri complètement. Et puis j'ai pu faire une fin de saison avec Angoulême en boulet de canon. Et puis ce qui m'a permis de revenir certainement plus fort à l'Olympique de Marseille.
Et donc vous quittez l'OM en 1974. Qu'est-ce qui vous a fait quitter l'OM ?
Bon, simplement pas le fait que je commençais à m'ennuyer ou que j'avais fait le tour à Marseille. On n'a jamais fait le tour parce qu'on apprend toujours. Mais le fait que le nord me manquait. Tout simplement, Je remontais rarement dans le nord, sauf en été, parce que pourquoi quitter Marseille ? Ça m'a valu des désagréments à Marseille, parce que j'adorais cette ville. Il y a toujours à faire, il y a toujours à voir. Et puis le climat est exceptionnel. Donc j'ai même refusé des sélections. Plutôt que d'aller en sélection, je préférais rester sur Marseille avec la famille. Et puis j'en ai eu marre à un moment donné parce que c'était un petit peu en train de partir dans le football business avec l'arrivée de Paul César, de Gersino, d'un entraîneur brésilien et ainsi de suite. Ça commençait à partir un petit peu dans tous les sens. Et puis, comme les Lensois ont eu la bonne idée de frapper à la porte et puis que j'avais de très beaux souvenirs avec les jeunes Lensois que j'avais rencontrés dans ma jeunesse, j'ai sauté sur l'occasion, quoi. J'ai accepté tout de suite de relever le challenge.
Alors, Monsieur Morneau, quelles sont les caractéristiques du Racing Club de Lens quand Daniel revient au milieu des années 70?
Cette équipe-là, elle me fait penser un petit peu aux Valenciennes de 2006 parce que ils ont joué au troisième niveau il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait des gens comme Lanois, Lott, Marie, Sizielski, même Zurazek qui jouaient déjà au niveau 3, au niveau 2. Donc là, ils sont remontés ensemble. Il y a eu une bonne osmose qui s'est faite avec les nouveaux, avec Yannotto, il y avait Roger Lemaire qui est arrivé. Grégor Zic, il y a eu une bonne osmose et voilà, et ça a amené à la finale de la Coupe de France la première année de Daniel.
Alors, première bonne saison, pensez-vous que la finale de la Coupe de France en 1975 a commencé à forger votre légende? Retour sur cette finale un peu, c'est vrai que on a dit que cette finale c'était la meilleure finale de la Coupe de France. Vous avez perdu 2-0 avec deux buts notamment de Dominique Clarquet sur une reprise de volée phénoménale, hein, et un but que Cajou aurait dû marquer, Jurazek, hein, c'est vrai, hein. Je l'ai vu cette finale et revue encore, et on a encore revu cette finale au Louvre-Lens il n'y a pas longtemps. Hein. Alors, c'est clair.
Non, mais ça reste un super souvenir d'abord parce que c'était la finalité d'une saison exceptionnelle avec des garçons, avec Jean-Marie, avec Fares, avec Grégor, avec Faber, avec tous ces garçons-là, DJ, Alain. Donc, on avait pris un plaisir exceptionnel. Je ne sais pas si c'était cette année-là, Thierry, l'année du bonus.
Si, l'année
du bonus. Donc, on prenait un malin plaisir à se motiver, à vouloir marquer le plus de buts possible, garder cet avantage jusqu'à la fin des matchs, parce que ça pouvait nous rapporter un point de plus. Ça nous rapportait un point de plus, mais bizarrement, sans y trop y penser, ça nous rapportait certainement beaucoup plus de plaisir chez les supporters et puis chez nous-mêmes, parce qu'il nous arrivait le lendemain d'un match de nous engueuler au décrassage, parce qu'éventuellement, on avait gagné que 5-3 ou 6-5 ou un truc comme ça, quoi. Donc c'est vrai que c'était une bonne période, et puis cette fin de saison avec des matchs quand même incroyables à Reims contre Paris, les fameux matchs contre Metz, et puis cette finale, on avait joué Saint-Étienne 15 jours auparavant, on avait gagné 3-1 je crois, et on s'était dit, on était parti confiant pour cette finale parce qu'on n'avait pas du tout peur de jouer contre Saint-Étienne. Peut-être qu'on appréhendait un petit peu l'événement, cette finale de Coupe de France au Parc des Princes. C'est quand même nouveau pour le Racing Club de Lens. Mais il faisait très chaud. Et malheureusement, le premier but a été marqué par Saint-Étienne. Je pense que si on avait pu marquer, comme vous l'avez dit, le but en première mi-temps, je suis persuadé qu'on aurait certainement gagné ce match-là parce qu'il faisait très chaud et les joueurs étaient vraiment au bout de... J'aurais vu aussi ce match il n'y a pas très longtemps et j'ai eu une bonne sensation parce que je n'imaginais pas qu'il y avait eu un tel match de notre part sur cette finale.
C'est vrai que Cajou a dû marquer, hein, avec des sillons. C'est vrai que il y avait vraiment la possibilité, hein, bon, ça s'est mal goupillé, quoi, ouais. Voilà. Et puis, cette reprise de Larqué est phénoménale, quoi, je veux dire, elle est dans les annales, cette reprise de volée, hein.
Ah oui, exactement.
Voilà. Alors, le retour sur la saison 76-77, exceptionnel, se lance, finit deuxième. Il y a un choix tactique de poste qui va avoir une grande importance pour faire la différence cette saison-là.
Oui, certainement, mais c'est venu simplement, d'abord parce que j'ai toujours eu beaucoup de respect avec les, avec mes entraîneurs. Et puis que quand M. Sowinski, quand j'ai vu le recrutement, il y a Richard qui est arrivé, Richard Grazi qui est arrivé, il y avait l'éclosion déjà de Robert Sapp qui commençait à pointer le nez. Et puis il restait Jean-Marie, il restait Fares, et moi-même. Mm-hmm. Et puis il y avait même Hervé Flack qui commençait ouais. aussi et qui était un milieu de terrain. Et puis M. Sowinski m'a tout simplement demandé si ça ne me dérangerait pas de jouer en défense centrale. Ouais, j'ai simplement cette réflexion-là. Non, pas de problème. Si vous voulez que je joue en défense centrale, je joue en défense centrale, même si, dans mon esprit, je n'étais pas plus rassuré que ça, parce que c'est quand même... plus on recule, plus on devient... Plus on évolue dans une situation...
plan de responsabilité.
Voilà, plus compliqué, quoi. Derrière, il ne reste plus que le gardien, quoi. Et puis on l'a fait avec Hervé qui s'est attaché aussi lui à donner le mieux possible pour qu'on soit assez efficace défensivement dans le championnat. Je pense pas qu'on ait été très très efficace défensivement, par contre on l'a été très très offensivement.
C'est vrai qu'on surnommait les joueurs, hein, Richard Kranjec, Zébulon.
Oui.
C'est vrai que hein, c'est des noms que je retiens. Chaque joueur avait un surnom, enfin beaucoup de joueurs en Lensois, hein, c'est vrai. Et puis ces deux, vous citez Faber, hein, et puis Grzegorzik qui venait de Pologne, de Chorzów, hein, qui ont été phénoménales, hein, c'est
oui,
vrai.
Justement.
Hein. Genius a né des débordements avec sa petite taille.
Hein. Oui. Mmh. Et juste avant l'arrivée d'Achou, Joachim Marx.
Oui, aussi, et voilà. Et puis il arrive, il marque 3 buts.
Ah, il y a beaucoup de Polonais qui sont quand même passés par Lens. Hein. Il y a Winkler, Mekelevich et tout ça.
Alors, cette année-là, vous avez été élu meilleur joueur du championnat. C'était une surprise pour vous ? Ah, en changeant de poste, malgré tout ?
Oui, une surprise, mais... Vous savez, vous alignez les matchs et puis... entre guillemets, c'est plus facile de se mettre en évidence quand on joue en défense centrale, du moins c'était mon cas, puisque je passais peu de temps en défense centrale. Je passais plus de temps au milieu de terrain, donc j'étais beaucoup plus libre dans mes mouvements. Personne s'attachait trop à moi par rapport au milieu de terrain, à mon poste de milieu de terrain auparavant, donc j'avais beaucoup plus de liberté. Donc j'ai certainement noté par les journalistes pour ça, par les performances. Donc le fait en finalité de se battre pour le titre de meilleur joueur aux étoiles avec Raymond Queiroz-Doré, ben c'était la carotte supplémentaire.
Alors, M. Morneau, une question que vous avez voulu aborder. Votre avis, ce qui a pu freiner Michel Hidalgo pour ne pas sélectionner Daniel Leclerc l'année où il a été élu meilleur joueur du championnat ?
Ouais, pour moi, il y a plusieurs raisons. D'abord, cette année-là, Daniel pilote le RC Lens de l'arrière. Et à ce moment-là, Michel Hidalgo, il y a Platini. Depuis un an, il essaie de construire le jeu autour de Platini. Il a pu se dire, est-ce que le jeu de Daniel est compatible avec celui de Platini ? Après, il a pu se dire, peut-être Daniel était finalement un intérimaire cette année-là. Il y avait quand même des garçons qui étaient arrière-centraux de métier. Il avait un jeu atypique. Et ensuite, autre raison, on est en 77. Donc déjà, avant, il y avait l'hégémonie de Saint-Etienne. Donc il y avait beaucoup de garçons de Saint-Etienne dans l'équipe de France. Il y avait Jean Vion, il y avait Lopez, il y avait Battenay, il y avait Larquet. Et au moment où Daniel postule, il y a tous les Nantais qui sont là. C'est-à-dire il y a Rio, il y a Bossis, il y a Sanoun, il y a Baron Kelly, et il y a surtout Henri Michel, qui a un poste similaire à celui de Daniel. Et à ce moment-là, si vous ne jouez pas à Nantes et à Saint-Étienne, c'est très compliqué.
Vous êtes barré par les grands clubs.
Quand vous regardez un petit peu les gens qui ont fait carrière durablement en équipe de France à ce moment-là, il n'y en a pas 36. Hein. Ouais. Vous avez un Nancéen, il y a Platini. Il y a un Bordelais qui est Giresse. Ouais, ce sont que des joueurs de classe mondiale. Hein. Il y a un Messin qui était Batiston. Il y a Marius Trésor, évidemment le Marseillais. On va dire Didier Six de Valenciennes. Mais sinon, voilà, il y avait quasiment une hégémonie Saint-Étienne-Nantes à l'époque. Hein. C'était très difficile de s'imposer en équipe de France à cause de ça.
Alors, une date qui est mémorable, 2 novembre 1977, vous retrouvez l'Europe avec le fameux match contre la Lazio. Quels sont ces souvenirs du match où vous perdiez 2-0 là-bas l'Alsace de Rome, et puis 2-0 à la fin du temps réglementaire, et 6-0 à la fin, en prolongation.
Oui, mais c'est des bons souvenirs. C'est des matchs qui marquent un petit peu les esprits dans tous les supporters. Donc je ne dirais pas que ça ne nous a pas marqué, mais on a pris ce match retour avec beaucoup de confiance, parce qu'au match aller, on trouvait ça injuste. Mais c'était à l'époque où c'était une fatalité, quoi. On allait en Italie, on était sûr qu'on allait rencontrer des équipes très efficaces, qu'il leur suffisait d'avoir une ou deux occasions pour marquer. Et sur le fait d'avoir, nous, quand même développé un jeu intéressant, ben, nous a permis d'aborder le match retour avec beaucoup plus de confiance, de sérénité, même s'il a fallu attendre un certain moment avant que ça se déclenche, quoi.
Alors j'avais vu avant ce match-là, deux, trois ans auparavant, en sélection cadet, Didier Sic, qui joue à Béthune, je pense, hein, ce jour-là, marque 3 buts.
Oui, c'était Didier Sic. Moi aussi, quand on ne jouait pas en même temps que Valenciennes, j'allais le voir jouer à Valenciennes la saison précédente. Et c'est vrai que j'avais dit à M. Soinski qu'il y avait un joueur qui était intéressant pour l'avenir du Racing Club de Lens. C'était Didier Sic, et puis il est arrivé. C'est un garçon extraordinaire. Moi, je le connais bien, il a le cœur sur la main, et vraiment, ça a été un garçon très, très attachant. Et il a vécu sa période lensoise, mi-figue, mi-raisin, parce qu'il a été capable de faire des exploits. Et puis, il n'a pas toujours été récompensé, parce que derrière, la saison ne lui a pas apporté ce qu'il méritait, quoi.
Alors, c'est la même équipe qui bat la Lazio et qui descend en seconde division à la fin de la saison 1978. Il y a une question qu'on peut légitimement se poser. Est-ce que l'équipe de la seconde partie du championnat aurait été peu d'envie et s'est pris un peu le melon par rapport à certaines choses?
C'est pas le melon. Je pense pas que ce soit le melon, mais c'était quelque chose de nouveau pour la majorité des joueurs. C'est-à-dire qu'il y avait le championnat, bien sûr, et puis il y avait cette Coupe d'Europe. Et à un moment donné, dans cette Coupe d'Europe, les joueurs estimaient qu'il fallait moins s'entraîner, parce que les matchs à répétition, c'était fatigant, mais c'est un petit peu ce qu'on dit aujourd'hui, hein. Quand on dit qu'on est fatigué, on l'est, même si on ne l'est pas. Et donc, oui, il y a eu cette forme de démotivation, en faire moins à l'entraînement, et puis quand arrivait le moment fatidique où on s'est rendu compte qu'on était vraiment dans le dur, là il était trop tard, quoi.
Alors disons, si c'était passé aujourd'hui, vous restez en seconde division, vous aurez sûrement parti à l'étranger. Vous censez partir dans quel style de football, et quel championnat et quel club?
Peu importe. Ouais, des contacts, j'en ai eu, parce que quand j'étais à Marseille, Salif Keita, et avec qui j'étais proche, parce que j'adorais m'entraîner avec lui, et on se lançait des concours dans les séances d'entraînement, et il a été transféré à Valence. Et l'entraîneur à Valence était Di Stefano, et puis Di Stefano, quand on était allé faire un match amical à Valence, il m'avait repéré, il souhaitait que j'aille à chez lui, mais Marseille avait demandé beaucoup trop cher. Donc ça ne s'est pas fait. Après, oui, j'aurais pu aller évoluer dans d'autres clubs, notamment un club pas très loin d'ici, à Lille, parce que Charles Ilsa, moi aussi, souhaitait m'enrôler, mais c'était à une époque où il était interdit d'aller jouer chez les Lillois, donc ça ne s'est pas fait. Après, oui, il y a eu la possibilité d'aller aussi remplacer Van de Moor à Beveren, qui était champion de Belgique et qui prenait sa retraite, mais moi, je suis du nord, je suis aujourd'hui des Hauts-de-France, donc ouais. Ça me va bien.
Voilà. Alors les 4 années qui suivent la remontée, fortune diverse, il s'en est fallu de peu qu'en 1981 pour qu'on ait la revanche de la Coupe de France à Saint-Étienne.
Ouais. Ouais. avec Bastia et les matchs un petit peu compliqués au l'aller.
Disons, moi je m'en souviens, c'était, bah moi c'est le meilleur souvenir que j'ai eu où Pantelic s'est fait canarder de pétard tout le match et il a été trouvé l'arbitre sans arrêt et puis l'arbitre le renvoyait. Ce Pantelic allait dans votre coin, dans vos buts, ça se passe encore, si c'était pire à Bastia. Voilà, mes souvenirs sont comme ça. Et les gens du Nord n'ont pas été bienvenus en île de beauté et dans les années futures.
Oui, mais c'était déjà, c'était déjà une querelle auparavant. Hein. C'était l'année où, avant que j'arrive à Lens, où il y avait déjà eu un match de Coupe de France aller-retour, où ça s'était mal passé là-bas à l'aller pour Lens, et puis au match retour, je crois que les Bastiais dormaient à l'Hôtel de France, et puis les supporters...
Ils ont dormi à Arras, ils n'ont pas dormi de la nuit.
Ouais, et puis là, au match retour, c'était... j'ai eu un mauvais souvenir, parce que c'est Alain Fier qui m'a pris, qui m'a suivi de partout, qui m'a véritablement empêché de jouer. Il n'est pas grand, donc il était toujours entre mes jambes. Et puis, c'est pas un bon souvenir.
Et moi, disons que ce match-là, c'est le match qui m'a marqué dans ma carrière supporter, enfin dans les supporters, parce que c'est vrai que c'était certain hein, aussi pour la remontée avec Paris Football Club, avec Francis Edouard dans les buts. Hein, ça m'a marqué également. Hein, voilà, il y a certains matchs qui m'ont marqué. Alors, la dernière année, Lens avec Jaraoué vise à nouveau l'Europe et à un moment vous laissez sur blessure la place à Philippe Berquist, qui était par ailleurs un très bon joueur. Chose assez symbolique, Lens est leader du championnat.
Ça se passe comme ça. C'est-à-dire que avant l'arrivée de Jaraoué, je passe déjà mes diplômes d'entraîneur. Et puis Jaraoué, alors que j'étais en fin de contrat, souhaite que je reste au Racing Club de Lens. Donc, je dis oui, pourquoi pas. Et il dit je voudrais que tu restes parce que t'as l'expérience, t'as encore la possibilité d'apporter au club. Et puis, je voudrais qu'on prépare Philippe Berquist. Donc, toi, tu pourrais le préparer, le prendre sous ta coupe et tout. Bon, je dis pourquoi pas. Et donc, le début de saison et les matchs amicaux. En préparation, se déroule normalement, mis à part que Philippe, il est pas trop dans le coup, et puis que moi, Gérard, on arrive même à me faire jouer en numéro 6 pour faire jouer Philippe de temps en temps avec moi. Puis à un moment donné, il est obligé de prendre une décision, et c'est moi qui joue, quoi, en numéro 10, et Philippe est toujours remplaçant. Et puis il arrive ce fameux derby à Lille où, à 5 ou 10 minutes de la fin, sur un corner, je saute. Je renvoie le ballon de la tête et je me claque au mollet. Et là, Philippe est obligé de rentrer. Et puis derrière, il fait une saison exceptionnelle.
Alors, durant ces 9 ans au Racing Club de Lens, quels sont les noms des dirigeants, surtout, qui vous ont marqué? Et puis des joueurs, des gens, j'en connais quand même pas mal, qui vous ont marqué quand même. Mais notamment le président à cette époque-là.
Monsieur Bondou.
Oui.
Oui, voilà, tout simplement.
Jean Bondou.
Parce que c'est lui qui m'a fait venir avec Monsieur Tranin. Donc
Tranin, célèbre recruteur.
Voilà. Après, il y a eu tous ces présidents, que ce soit Monsieur Desfontaines, et puis surtout l'actuel, quoi, Gervais. Bon, après les entraîneurs, j'en ai eu pas mal, même si il y en a eu moins qu'ailleurs. Il y a d'abord Monsieur Sonaski, bien sûr. Après, j'ai eu Jean Séraphin. J'ai eu Gérard Rouillet aussi. Oui, donc.
Alors, dernière année pro, retour aux sources à Valenciennes en deuxième division avec un entraîneur que vous connaissez bien. Ah oui, c'est vrai que vous le connaissez bien.
Oui, c'est Monsieur Desmenets.
Ouais, voilà.
Donc, c'est le destin, quoi. Et je commence ma carrière avec lui et je la finis avec lui. Et je l'ai fini, c'est Thierry qui m'a rappelé cette anecdote, parce que j'ai fini meilleur joueur de Ligue 2.
Oui, pareil, 84.
En 84. Et puis à l'issue de la saison, Monsieur Demenet me propose un contrat de 2 ans. Et puis là, j'ai dit non, stop, j'arrête. Ouais. Je veux rester là-dessus, ça me suffit largement.
Alors, je reviens, monsieur Morneau. Alors, dans quel état se trouve le club de Valenciennes au moment du retour aux sources de Daniel?
Ah, c'est un peu compliqué. Ils ont lutté pendant 7 ans pour pas descendre, avec le 20e budget de D1 à chaque fois. Ils s'en sortaient par miracle. Et ils sont quand même descendus l'année d'avant. Ils ont essayé de remonter lors de la dernière année de Daniel. Ils ont presque réussi. Il y avait Lubanski qui leur met, je crois, 35 buts. Mais là, bon, à l'intersaison, il faut bien digérer le départ de Lubanski, aussi de plusieurs cadres de l'équipe. Il y a Gillot qui s'en va, il y a Duez qui s'en va, il y a plusieurs qui s'en vont. Et là, au niveau du recrutement, encore, bah, il n'y a quasiment que Daniel pour contrebalancer. Donc on sent que ça va être compliqué. Ça a été une année, on va dire, correcte. Je crois qu'ils font cinquième. Voilà, c'est encore une bonne année de Valenciennes.
Ouais, alors, monsieur Leclerc. Ça s'est passé tout simplement parce que c'était ma dernière saison de contrat à Lens, que André Arbonnier m'a appelé, que Lubanski partait, et puis que. Il voulait quand même que ce soit quand même cohérent pour la saison. Et puis je suis arrivé là-bas, je sais que les premières discussions avec les joueurs ont été. Un petit peu chaude parce que il prenait cette saison un petit peu à la rigolade parce qu'il s'imaginait qu'en perdant des joueurs comme Lubanski, je sais pas s'il y avait pas Voisy aussi.
Haïti aussi.
Des garçons comme ça qu'ils allaient être livrés à eux-mêmes. Et puis quand j'ai entendu ce discours, je leur ai bien fait passer un message, c'est-à-dire que je n'étais pas venu, pour passer une saison de merde. J'étais venu encore une fois dans ce qui m'a habité tout au long de ma carrière, l'ambition, et puis de faire la meilleure saison possible. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on n'était pas loin de réussir. On a perdu un match à Reims, je crois, on est en fait un gros match. Et puis, oui, comme le dit Thierry, on a terminé cinquième avec les honneurs. Mais je pense que si on y avait cru un peu plus, il y avait des garçons comme Thierry Loret, il y avait des
Périlleux,
tout ça, qui commençaient à pointer le nez et... C'est dommage parce que si ces garçons-là y avaient cru dès le début, c'était possible. Quoi.
Alors on dit que vous avez quitté Valenciennes cette dernière année, là, Valenciennes, parce qu'il y a quelqu'un qui vous collait à vos basques sans arrêt. Et puis malgré tout, vous arrêtez à 35 ans. Et en étant élu meilleur joueur du groupe, ce qui témoigne quand même de votre belle santé.
Belle santé, oui, mais... J'habitais toujours à Beauvin, pas très loin d'ici.
Ah oui.
Et puis je faisais la route tous les jours. Tous les jours. Et quand j'avais dit à M. Demené, est-ce que je peux être exempté du lendemain de match, du décrassage, j'irai courir aux étangs de Vingle. Et puis il m'a dit, non, c'est important sur toi, ton âge, le décrassage et tout. Oh purée. Donc c'était la séance la plus difficile de la semaine. Donc j'ai fait encore une fois en sorte de respecter mon contrat jusqu'au bout, d'autant plus que c'était M. Démené. Mais c'était certainement la saison qui mettait un terme à ma carrière, quoi. Parce que
tu as eu peur de faire la saison de trop ?
Ouais.
La saison de trop, oui. Puis encore une fois, rester sur cette image, tout simplement.
Ma station, ma région, ma passion.
Restez avec nous sur Radio Plus dans quelques instants, la suite de l'interview de Daniel Leclerc, ancien joueur et entraîneur du Racing Club de Lens et de Valenciennes, en hommage à sa disparition survenue le 22 novembre dernier.